journal est présenté par Claire Flochel.
Bonjour à tous. Face aux affaires de pédophilie, le cardinal Barbarin confesse des erreurs mais ne présente pas ses excuses. Dans un entretien au Monde publié hier, l'archevêque de Lyon se défend d'avoir couvert les agressions sexuelles d'un prêtre de son diocèse sur de jeunes scouts, le père Prena, mis en examen en janvier 2016. Philippe Barbarin estime toutefois qu'il aurait dû retirer son ministère au prêtre pédophile et assure qu'un procès canonique se tiendra, la prescription des faits ayant été levée par Rome. Insuffisant, estime François Deveau, le président de l'association La Parole Libérée, à l'origine des plaintes contre le père Prena.
La question qui se pose, c'est la sincérité de cette démarche, parce que elle arrive quand même assez tardivement, et on n'a pas besoin de se retourner vers le Vatican pour savoir que voilà, un prêtre ne peut pas continuer son sacerdoce quand il a commis des faits d'agression sexuelle sur mineurs et qu'il a utiliser des enfants d'une dizaine d'années comme objet sexuel. Donc c'est un peu à l'image du procès canonique, si vous voulez. Pour certains, c'est important, mais ça peut être une première démarche de prise de conscience. Ce qu'il y a, c'est que le diocèse de Lyon est au courant que le père Prena est pédophile depuis à peu près 50 ans. C'est-à-dire, j'étais pas encore né quand le diocèse de Lyon savait déjà que le père Prena était pédophile. Et le père Prena a été écarté par le cardinal de Courtrai il y a 25 ans. Et aujourd'hui, suite à la médiatisation de l'affaire, on obtient une levée de prescription canonique pour le père Prena et on diligente un procès canonique qu'on arrête maintenant parce qu'il y a une procédure sur la justice républicaine qui est en cours. Enfin, il n'y a pas vraiment de cohérence et de sens dans tout ça.
Le président de l'association La Parole Libérée, François Deveau, le cardinal Barbarin, lui, sera jugé en 2018 pour non-dénonciation de viol sur mineurs. Les 16 États membres de l'Union européenne concernés par le scandale des œufs contaminés au fipronil sont attendus de pied ferme par Bruxelles à la rentrée. Exhortés à cesser de se rejeter la faute, appelés à travailler ensemble et à tirer les leçons de cette crise, l'Espagne a découvert hier qu'elle en faisait partie. La France, elle, continue de retirer les produits infectés de ses supermarchés. 250 000 œufs contaminés sur tout le territoire. La Suisse et Hong Kong sont également touchés. On rappelle que l'Organisation mondiale de la santé considère le risque pour l'homme très faible et le fipronil modérément toxique. Cette question maintenant, les policiers armés mais hors service peuvent-ils servir à quelque chose? En tout cas, depuis les attentats de 2015, un règlement les autorise à conserver leurs armes sur leur temps libre pour leur permettre d'intervenir en cas d'attaque. Mais dans les faits, de nombreux sites touristiques ou des salles de concert par exemple refusent de les laisser entrer, Emmanuel Leclerc.
Depuis 7 ans, Michael est gardien de la paix à Paris et depuis les attentats dans la capitale, il a souhaité garder son arme de service 24 heures sur 24 au cas où. Il fait partie de l'unité de sécurisation des lieux publics. Il connaît donc très bien les vigiles, notamment à la Tour Eiffel. Mais pour venir armé en civil avec son épouse, impossible.
On appelle le chef qui s'occupe des agents de sécurité devant tout le monde et il nous dit que c'est pas possible de rentrer. Je veux dire, récemment, par exemple, concert Fnac. J'y vais l'après-midi, l'agent de sécurité me dit « non, vous rentrez pas ». Je trouve ça pas normal.
La FNAC n'a pas souhaité réagir, le règlement de la Tour Eiffel, lui, est formel, pas d'armes dans les étages. En fait, la loi aujourd'hui n'oblige toujours pas les gérants privés de lieux publics ou de salles de spectacle à accepter des policiers ou des gendarmes en civil à entrer avec leurs armes de service. Stanislas Gondon est l'un des délégués du syndicat Alliance.
C'est vrai que c'est un non-sens. Tous les ministres de l'Intérieur ont été saisis par notre organisation syndicale et aucun n'a voulu prendre son courage à deux mains pour écrire un nouveau texte de loi qui nous autorise à porter notre arme hors service en tout temps, en tout lieu, comme c'était prévu depuis le début.
Un amendement avait été déposé en février dernier par le député LR Georges Fenech, amendement écarté en commission des lois.
Reportage d'Emmanuel Leclerc pour France Culture. À l'étranger, des saluts nazis et des drapeaux confédérés. Une manifestation d'extrême droite aux États-Unis a fait 3 morts hier à Charlottesville, en Virginie. Face au Ku Klux Klan et d'autres groupes identitaires, des militants antiracistes se sont réunis pour organiser une contre-manifestation. Des militants visés par une voiture qui a foncé dans la foule et tué une femme de 32 ans. 2 policiers sont également morts dans le crash de leur hélicoptère dans des circonstances encore inconnues ce matin. En 1962, les États-Unis et la Russie faisaient trembler la planète lors de la crise des fusées à Cuba. Pour éviter que ne se reproduise une telle surenchère de la terreur, la Maison-Blanche et le Kremlin se dotaient, un an plus tard, du fameux téléphone rouge, un canal direct et sécurisé pour communiquer avant de commettre l'irréparable. Aujourd'hui, le monde tremble à nouveau au gré des tweets de Donald Trump et des communiqués de Pyongyang, car entre Washington et la Corée du Nord, il n'y a aucune relation diplomatique. Claude Guibal.
Entre les États-Unis et la Corée, pas de relation, pas d'ambassade. Mais les représentants de Washington et de Pyongyang se croisent parfois dans les couloirs des institutions internationales où ils ont des délégations comme les Nations Unies ou l'UNESCO. Mais le dialogue se fait plutôt via des tiers. La Chine, la Russie, des pays proches de Pyongyang, auprès desquels les États-Unis font parfois passer des messages, ainsi qu'à d'autres États plus neutres, ou encore des organisations de médiation bien plus discrètes. Lors des précédentes crises régionales, un mécanisme de pourparlers à 6, impliquant également Corée du Sud et Japon, avait été mise en place sans résultat majeur, impossible depuis de le réactiver, car ce que cherche la Corée du Nord, en fait, c'est de pouvoir parler directement aux États-Unis d'égal à égal, bref, être reconnu par eux. Il faut alors se souvenir de la précédente grosse crise. En 1994, Bill Clinton s'apprêtait à frapper un réacteur nucléaire au nord de Pyongyang lorsque les frappes ont été évitées in extremis par la médiation de l'ancien président Jimmy Carter, venu sur place à Pyongyang négocier avec Kim Il-sung, le père de l'actuel dirigeant nord-coréen. Une diplomatie du face-à-face qui avait alors porté ses fruits.
Et pour calmer le jeu sur le dossier nord-coréen, Emmanuel Macron appelle à, je cite, « prévenir toute escalade des tensions ». Le chef de l'État s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue américain. Mais quelques instants après, Donald Trump a réaffirmé que l'option militaire restait sur la table. Un violent séisme de magnitude 6,5 pour finir à Sumatra en Indonésie. Aucune victime ni dégâts n'a été signalé dans l'immédiat. Le risque d'un tsunami est écarté selon l'agence indonésienne de géophysique. La météo de votre dimanche, c'est nuageux le matin en Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Centre, Bourgogne jusqu'à l'Alsace. C'est mieux cet après-midi avec de belles éclaircies. La deuxième partie de la journée devrait être également assez belle sur l'Île-de-France et dans le nord. Dans le sud, le soleil brille largement. Il va faire jusqu'à 18 degrés à Saint-Brieuc, 22 à Lille, 23 à Paris et Bayonne, 25 degrés à Chambéry, 28 degrés à Montpellier.